Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Tech Café, c'est votre rendez-vous en podcast diffusé sur Internet qui vous parle de tech, de tous ses usages. Je suis Guillaume Vendée et vous écoutez cet épisode qui a été enregistré le 11 octobre 2016. Salut, merci beaucoup de nous suivre et de nous retrouver pour Tech Café. Ça va être un épisode en duo, il y en a régulièrement, comme la chronique des composants, même si cette fois-ci c'est un épisode classique de Tech Café, car je suis accompagné de Dr Guillaume, alias Guillaume Poggiaspala. Salut, comment vas-tu ?
Mais ça va très bien, et vous-même ?
Ça va très très bien. On a un programme assez complet ce soir. On va revenir sur les petites annonces de Google, même si il n'y a pas forcément des tartines et des tartines d'innovation, mais on va quand même pouvoir parler de tout ça. Plus d'innovation probablement, ou en tout cas des déclics dans mon cerveau à voir, mais à propos de la conférence Oculus Connect. On va faire un petit tour sur le CEATEC 2016, et puis on va bien évidemment parler en long, en large de Samsung, et puis aussi vous le relayez, plein de petites news en vrac. Certaines étaient prévues par Tom qui devait être présent ce soir, Tom Comte, et qui n'est pas dispo. On lui fait un petit coucou, mais on va voir si on a le temps de relayer les petites news qu'il avait listées. On passe tout de suite à la keynote Google qui avait lieu la semaine dernière, sur laquelle il y a eu pas mal de petites annonces. Alors il y avait beaucoup de choses qui avaient fuité, et puis on avait parlé dans l'épisode précédent de Tech Café des rumeurs et puis du marketing appuyé qu'il y avait notamment autour des pixels. Guillaume, t'as suivi ça de près. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que t'en as retenu? Qu'est-ce qui t'a plu?
Qu'est-ce qui m'a plu? Ah ouais, c'est une bonne question ça en fait. Qu'est-ce qui m'a plu?
Rien? Non.
Je suis pas trop intéressé par les pixels. On en reparlera parce que je pense que c'est un gros sujet en soi. Bon, disons que il y a eu pas mal de trucs qui ressemblent à pas mal de trucs qui ont été déjà faits par la concurrence quand même. Hein. C'est vrai que
c'est des copieurs.
Non, mais là c'est vrai que Google avec Google Home qui est en écho à qui fait un écho qui est une sorte d'écho d'Alexa entre le Daydream VR qui fait énormément penser au Gear VR. Entre les pixels qui font beaucoup penser, à une volonté de concurrencer l'iPhone frontalement, c'est vrai que on peut pas vraiment dire que c'était une folie complètement dans l'innovation. C'est pas si mal que ça non plus. Hein. Bon, moi Google Home, ça m'intéresse pas des masses. Donc si tu veux en dire quelques mots.
Google Home, je sais pas si on va pouvoir beaucoup en détailler parce que beaucoup de choses ont été dites, mais quand même, juste pour repréciser les choses, c'est un appareil qu'on peut, quoi qu'on en dise, trouver assez sexy. Il est assez joli, il s'intègre bien dans l'intérieur. Je crois d'ailleurs que c'est un point qui est assez important dans les innovations de ce type de technologie, telles qu'on les voit maintenant fleurir, de toutes ces technologies qui s'intègrent dans notre intérieur. Il y a des produits qui sont beaux. Le produit Google Home ou un vase hyper moderne, vous ne ferez pas trop la différence, je caricature un peu, mais quand même, il y a l'animation sur le dessus de l'appareil avec les petits ronds qui tournent quand il y a une requête qui tourne pas mal et qui est assez jolie. Le produit est annoncé à $129 et grosso modo, c'est du OK Google dans votre maison. Vous allez pouvoir faire les requêtes que vous voulez. Il y a pas mal d'intégrations, notamment autour d'applicatifs de type un petit Spotify qui va vous lancer de la musique. Vous allez pouvoir interfacer des éléments en lien avec la domotique, donc notamment évidemment les produits Nest qui sont sous la même entité mère Alphabet que Google, comme les appareils Samsung SmartThings ou les ampoules connectées Philips Hue. Mais évidemment, on imagine qu'il y a toute une gamme d'interfaces, d'appareils qui vont pouvoir être implémentés. Et c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir vraiment... Alors déjà, j'ai pas de vision sur une disponibilité en français, ce qui est quand même quelque chose qui peut nous intéresser, nous, à notre échelle. À l'heure où Alexa est pas encore interfaçable avec Amazon Echo en français... wait and see, mais la promesse est super intéressante. Et moi, j'avoue que si aujourd'hui je devais installer une station d'interface à la voix pour commander des trucs, peut-être bien que ce serait un Google Home que j'utiliserais plus qu'un Amazon. Aujourd'hui, c'est peut-être le produit qui me séduirait le plus. Toi, t'es pas intéressé parce que tu vois pas l'usage, parce que tu as pas confiance dans le côté respect de la vie privée, ou pour les deux raisons mêlées, ou pour une troisième raison que je n'identifie pas, Guillaume?
C'est un petit peu pour les deux raisons mêlées. C'est vrai que bon, c'est pas forcément. C'est un truc qui écoute quand même en permanence, hein, puisqu'il doit réagir au OK Google. Donc c'est bon, on peut se poser des questions sur effectivement la vie privée. Après, moi, j'ai pas vraiment l'impulsion toujours de parler à des machines. Bon, est-ce que ce soit mon ordinateur, mon téléphone, je sais pas si j'aurais l'impulsion de parler à un Google Home ou même à Alexa, donc au Amazon Echo. Je sais pas, j'ai un petit peu de mal à voir ça. Après, au
est-ce
niveau...
que, excuse-moi, est-ce que c'est pas ce produit, j'ai plus en tête la conférence qui avait lieu ouais, la semaine dernière, je me rappelle plus, mais il n'y a pas un moyen de la couper, justement, de la mettre en fonction privée, il me semble qu'ils avaient présenté ça, ou je confonds peut-être avec un autre produit, mais il était question de pouvoir arrêter de faire en sorte qu'il écoute tout le temps. Il y a quelque chose, un bouton, je sais plus quoi. Bref.
C'est possible. En tous les cas, c'est vrai que bon, ça arrive le 4 novembre, apparemment aux États-Unis, pour moins cher que le Google Echo. On va voir si ça a du succès. C'est vrai que donc technologiquement, c'est l'assistant Google. Alors, assistant Google, c'est globalement le chatbot qui a été plaqué sur toute l'intelligence Google qui existe déjà. Et c'est le chatbot qui est donc déployé sur Google Allo et qui sera aussi déployé sur les fameux pixels. Bon, je sais pas, j'ai pas pu tester, donc je sais pas à quel point c'est pertinent tout ça. C'est vrai que moi, a priori, parler à quelqu'un qui est pas là comme ça, je sais pas, faudra voir.
L'idée, alors c'est très difficile de se projeter tant qu'on n'en a pas testé, et a priori tous ceux qui testent Amazon Echo ont des retours très très positifs, mais c'est vrai, moi je suis à peu près persuadé que on va assister là à une des prochaines révolutions qui vont avoir lieu dans le domaine de la technologie. Une autre est probablement celle qu'on abordera plus tard dans l'émission, mais je crois que cette interface à la voix fait beaucoup de sens. Aujourd'hui, c'est pas démocratisé parce que ça fonctionne pas bien, parce qu'on peut pas faire beaucoup de choses, mais quand on voit au quotidien, dans une pièce à vivre telle qu'un salon, la multitude de choses stupides qu'on peut avoir à faire avec nos propres mimines, typiquement, allumer une télé, s'il n'y a pas quelque chose de plus stupide que ça, de sortir une télécommande, d'appuyer sur un bouton pour faire dans 90% des cas la même chose, allumer, éteindre la lumière, bien que je pense que ce qui soit encore plus intéressant, ce soit que ça, la lumière se déclenche automatiquement quand elle voit quelqu'un et que ça s'éteigne automatiquement quand elle voit qu'il n'y a plus personne, mais malgré tout, si on peut changer l'environnement de couleur à la voix, si on peut baisser les volets à la voix, si on peut verrouiller la porte à la voix, moi je pense que c'est toute cette multitude de choses qui font du sens. Au même titre, on en parlera dans les petites news à la fin, mais on commence à voir des appareils du style des lave-vaisselle qui vont commander tout seul des pastilles sur Amazon quand vous arrivez à court de pastilles. Typiquement, toutes ces petites choses, moi je l'ai déjà dit dans les épisodes de Tech Café, dans d'autres podcasts que je peux faire, mais le fait de saisir une liste de courses, la plupart du temps maintenant, je dicte les éléments à rajouter à la liste de courses à la voix avec mon smartphone sans même le toucher. Et je trouve que ça fait du sens et je pense que ça va se démocratiser, et surtout avec la génération à venir, quand on voit les enfants aujourd'hui, la capacité d'adaptation qu'ils ont et à quel point ça se voit, ça les fait chier d'apprendre à manipuler des interfaces avec des boutons. Déjà, un écran qui n'est pas tactile, ça leur fait quelque chose, c'est bizarre, c'est pas concevable pour eux, et je pense que demain les enfants vont pas concevoir le fait de devoir interagir manuellement avec des appareils, quoi.
Ouais, mais tu vois, demain justement, moi le problème que j'ai avec les interfaces comme ça vocales, c'est qu'en fait, je veux pas Alexa, je veux pas Google Home, je veux pas Alexa, je veux Samantha. C'est-à-dire, je veux cette intelligence. Mais bien sûr, je veux cette intelligence qu'on a dans Her, où j'ai vraiment l'impression de parler à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui peut. Je veux parler à cette machine comme je parlerais à un humain. J'ai pas envie, si tu veux, de me cantonner à certaines fonctions, certaines. Parce qu'en fait, le problème que j'ai avec un ordinateur, c'est que je ne sais pas quoi lui dire. Je suis jamais sûr qu'il comprenne exactement. Je sais pas exactement comment formuler. Et du coup, ça me bloque. Tu vois, si je pouvais parler à un ordinateur comme je parlerais à un être humain, comme ça se fait dans le film. Je pense que oui, je pourrais effectivement parfaitement utiliser ce truc-là.
Tu vois. D'accord.
Mais je pense que pour mon profil, c'est tout simplement encore trop balbutiant, si tu veux, pour que moi je saute le pas, quoi.
On est d'accord. En fait, je pense que c'est pas abouti, mais on commence à voir les choses se dessiner, et c'est là où ça fait encore plus rêver plutôt que de trouver une solution qui est commercialement viable par rapport à l'attente que tu en fais.
Hein, nos enfants, les enfants, effectivement,
dans
eux,
une génération, je pense
effectivement,
que
ils connaîtront effectivement des Samantha et ça va paraître tout à fait naturel.
Qu'on va le vivre nous.
Oui, j'espère, j'espère. Non, mais tu vois, en plus, la technologie actuelle est déjà très très sophistiquée, c'est très impressionnant. C'est juste que je suis un être humain qui est extrêmement exigeant peut-être, mais.
Écoute, moi je pense que si je devais faire une analogie telle que je perçois les choses, entre la situation d'usage démocratisé, telle que tu l'as décrit, c'est-à-dire où on n'a pas de questions à se poser sur la compatibilité, sur les instructions, et où le truc est une vraie interface naturelle, et aujourd'hui, il y a, je pense, à peu près autant d'écart qu'entre le smartphone tel qu'on le vit aujourd'hui, qui est quelque chose d'hyper intelligent, très abouti, ou en tout cas qui permet de faire une multitude de choses, et la naissance du téléphone mobile, mais pas smartphone. Enfin, pour moi, tu vois, il y a à peu près ce même écart d'évolution. Mais le simple fait qu'il y ait, au niveau de l'interface vocale, l'équivalent du téléphone mobile tel qu'il l'était par rapport au smartphone ou tel qu'il l'est aujourd'hui, je trouve ça excitant, quoi, parce qu'on commence à toucher du doigt des faisabilités et des choses qui vont arriver demain, alors qu'il y a encore, je sais pas, 10 ans, ça aurait paru complètement être de la science-fiction, quoi. Non, je me rappelle d'une vidéo de Microsoft, on avait dû en parler dans un Tech Café, qui décrivait la vision du futur, mais il y a de ça super longtemps, et finalement, cette interface-là, elle était décrite en science-fiction. C'est dans Retour vers le futur 2, je crois, où on voit la maison du futur Marty McFly, un peu raté, père de famille, mais en gros, tout le monde interagit à la voix, et je pense que ça va arriver, quoi.
Ouais, non, je l'ai revu il n'y a pas longtemps justement d'ailleurs, et je conseille à tout le monde de le revoir, Retour vers le futur 2, parce que dedans il y a une personnification de Donald Trump qui est quand même assez savoureuse.
Ah,
je sais pas si tu te souviens, mais
non, du tout.
Biff Tannen, c'est vraiment, c'est devenu Donald Trump, quoi, dans celui-là. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que le film date de 88.
Ouais.
Comme quoi.
Tout à fait. Non, c'est à voir. Oh, et puis, enfin, il faudrait le revoir, ne serait-ce que pour lister les évolutions technologiques qui se sont vérifiées ou qui vont se vérifier. Puis, on fera pas mention aux Nike qui se lassent toutes seules, qui vont arriver. Toi, il y a des choses qui t'ont interpellé sur notamment le smartphone et le casque que tu vas décrire un petit peu plus, dans lequel tu peux glisser le Pixel. Il y a une solution assez complète pour proposer une expérience de VR qui peut faire envie et qui n'est pas sans rappeler d'autres solutions qui ont été proposées par d'autres, Guillaume.
Oui, alors justement, si tu veux, la VR, ça y est, la VR commence à arriver dans pour le grand public, puisqu'elle commence à arriver à la Fnac, elle est arrivée chez Boulanger. Donc les grands magasins vont commencer à proposer des expériences VR. Le PlayStation VR lui-même donc va arriver aussi en novembre. Mais clairement, c'est vrai qu'avec un smartphone, on peut avoir une idée, disons, de la VR, pour déjà se faire une idée à pas cher, et il y a déjà des casques qui existent, et dont certains ne sont pas mauvais. Le meilleur est probablement le Gear VR, mais il est obligatoirement attaché à, voilà, de Samsung, attaché à un téléphone Samsung, et même au haut de gamme de Samsung. Alors, il y a une raison à ça, hein, c'est que, tout simplement, les téléphones mobiles ne sont pas faits pour faire de la réalité virtuelle. Effectivement, et donc évidemment, et du coup, ils la font relativement mal. Alors, même si vous avez un très bon écran sur votre téléphone mobile, c'est mon cas, hein, moi j'ai un LG G3, il a un écran super, il fait quand même de la VR absolument pourrave, tout simplement parce que les capteurs qui sont à l'intérieur, le GPU qui est dedans, tout ça, ça pédale comme ça peut, mais il est impossible avec une plateforme comme ça de faire une VR qui soit confortable, tout simplement parce que c'est pas assez fluide, les capteurs sont pas assez précis, sont pas assez réactifs, et du coup ça file la gerbe ou ça donne une expérience qui est pas extraordinaire.
Alors, ce qui est pas le cas du Gear VR et d'une
Gear
solution
VR, justement, est bien meilleur que ça. Alors d'une part, ce sont des modèles haut de gamme, donc voilà, les GPU sont assez puissants, l'écran est un écran OLED, ce qui est vraiment très, très, très appréciable, parce que ça a une latence qui est absolument nulle, donc c'est vraiment pas mal. Et en plus, le Gear VR intègre des capteurs qui complémentent ceux du téléphone mobile et qui sont beaucoup plus réactifs. Ce qui fait que ça donne une expérience VR qui est, disons, la meilleure possible avec un téléphone mobile. Et c'est vrai que Google voudrait remédier à ce problème avec la plateforme Daydream qui est intégrée à Nougat, à Google, donc à Android 7. Alors, c'est très profond, on dirait pas, mais Nougat intègre la VR de manière assez profonde, tout simplement parce qu'il y a, plein de choses. Oui, alors on avait déjà parlé, je sais pas.
On l'avait mentionné plutôt.
Je sais même pas si c'est pas dans le podcast mort, là, tu sais, le podcast zombie qui est jamais sorti.
un épisode qu'on avait... Ah oui, t'as pas tort, il y a un épisode qu'on a enregistré une dizaine de fois la même soirée, qui a dû durer 3 minutes à chaque fois et qui est jamais sorti par lassitude de ma part.
Ouais. J'y expliquais donc justement que Nougat était intéressant parce que justement, il intégrait une plateforme qui, au niveau même de l'OS, permettait de réduire la latence sur les capteurs, de réduire, enfin, disons, modifier un certain nombre de choses en profondeur pour permettre une expérience de VR bien meilleure sur les téléphones mobiles. Et du coup, pour prolonger ça, Google sort son propre casque qui, à la différence du Gear VR, est un casque totalement passif, qui n'intègre pas d'électronique, mais qui néanmoins est quand même assez malin. La première chose, c'est qu'il est fait en tissu. C'est du tissu thermoformé, qui est donc très léger, mais aussi assez rigide et très occupant.
Ça fait penser aux housses d'ordinateurs portables qu'on peut acheter dans les magasins.
Exactement, ça fait cosy. Hein, pour l'hiver, on a envie de le mettre.
Ça tient chaud aux yeux.
C'est assez rigolo. Et du coup, c'est 30% plus léger que la moyenne, on va dire, des casques, en particulier sans aucun doute les Gear VR, puisqu'il pèse 318 grammes sans le téléphone. Et ce qui est assez important, parce que vous allez quand même vous le mettre sur le nez. Et il y a des trucs assez marrants, comme par exemple une technique d'alignement automatique des images, parce que quand vous mettez votre téléphone dedans, il faut effectivement que le téléphone soit bien aligné pour que la séparation entre les yeux soit bien au niveau de votre nez, hein, et sinon effectivement c'est plus emmerdant pour faire le focus. Alors là il y a un truc assez marrant, c'est qu'il y a 6 bumpers capacitifs à l'intérieur du casque. Quand vous mettez le téléphone dedans, le téléphone ressent les 6 bumpers puisqu'ils sont capacitifs, ils sont sentis par l'écran tactile, et l'application peut réajuster la position de l'image automatiquement pour que ce soit toujours parfaitement aligné. Donc c'est vraiment pas cher à faire et c'est assez malin. Et on peut aussi mentionner d'ailleurs que vous pouvez mettre absolument n'importe quel téléphone dedans, hein, c'est pas fait juste pour les pixels. D'ailleurs, ça peut aller jusqu'à 11,5 mm d'épaisseur, donc ouais, ça peut accueillir vraiment n'importe quoi. Il y a une petite puce NFC aussi pour que les téléphones qui sont équipés d'NFC puissent récupérer les informations du cardboard automatiquement, c'est-à-dire, enfin, c'est justement le cardboard avait un QR code. Je sais pas si tu te souviens, je sais pas si t'as jamais vu. Le cardboard a un QR code. C'est très simple, hein, vous téléchargez votre application Cardboard et le téléphone lit le QR code et l'application Cardboard sait quel casque vous avez. Là, le NFC va remplacer tout ça. Donc ça, c'est assez appréciable. Et puis, on a aussi, qui vient avec chaque Daydream VR, on a aussi un contrôleur. Donc c'est une sorte de petite télécommande avec quelques petits boutons, un petit trackpad. Et elle a effectivement la même fonctionnalité qu'une Wiimote, puisqu'il y a des accéléromètres dedans qui permettent de balader un curseur virtuel comme ça. Donc c'est minimaliste, mais c'est très appréciable parce qu'effectivement, quand vous avez le téléphone sur le nez, vous pouvez pas interagir avec. Donc c'est très, très utile d'avoir ce petit truc qu'il faut sinon acheter en général à part. Donc voilà, Daydream VR, je pense que c'est vraiment pas mal. Si vous avez un téléphone Nougat et un Daydream VR, je pense qu'on peut avoir une... Ils ont une petite expérience de réalité virtuelle qui peut être assez sympathique et meilleure qu'avant, et tout ça pour 79$. Donc c'est vrai que c'est quand même appréciable.
Ouais, ça reste des solutions intéressantes pour tester, quoi, pour tester. Exactement, la réalité virtuelle. Après, j'imagine pas qu'on puisse faire une expérience totalement immersive avec ce genre de solution, mais on en avait déjà parlé de toute façon. Mais c'est effectivement dans l'éventail des solutions de première expérience de VR, c'est peut-être celle qui semble la plus accessible, la plus confortable et la plus aboutie, quoi.
C'est plus universel puisque ça marche avec tous les téléphones, tu vois, comme le Gear VR.
Non. Est-ce que tu vas t'en prendre un?
Non, parce que moi j'ai déjà un casque Omido.
Allo Mido.
Et donc, ça me suffit, quoi, mais c'est vrai que ça pourrait être un truc assez sympa. Il faudrait surtout que je change de téléphone si je voulais aller plus loin.
D'accord. Ouais, t'en parlais juste avant. Écoute, justement, tu parles de téléphone. Alors là, c'est vraiment rigolo parce que... c'est vraiment bien fait d'ailleurs cet appareil, enfin cet accessoire, j'ai du mal à l'appeler un appareil quand même. Il s'ouvre et donc on trouve la télécommande, enfin elle est glissée dans le petit réceptacle. C'est vraiment malin, c'est vraiment bien pensé. Et donc, alors dans cette conférence, ils ont présenté aussi les pixels. Donc on avait largement anticipé le teasing qui en avait été fait. À mon sens, il n'y a pas grand chose à dire des pixels, si ce n'est que ce sont de très bons smartphones Android.
C'est très cher. Très
cher. C'est bon, moi j'étais convaincu que depuis le Nexus, il y aurait plus de retour en arrière et qu'il y aurait plus de smartphone fer de lance Google low cost, mais on pouvait quand même être en droit d'attendre un prix peut-être un peu inférieur. Alors, c'est quoi d'ailleurs les pixels, les prix des deux tailles d'appareils? Je sais pas si tu les as, je les avais pas enlevés.
On est 650$ pour le Pixel 5 pouces et 769$ pour le Pixel XL qui est à 5,5.
Je crois que c'était...
Ouais, pour ce prix, vous avez quand même un truc haut de gamme, hein, évidemment, avec un écran AMOLED, QHD et un Qualcomm 821, donc le top du top, 4Go de RAM. Bon, voilà, ce sont voilà, c'est vraiment très haut de gamme. Bon, néanmoins, on est au niveau de prix d'un Galaxy Note 7, quoi.
C'est ça, et voire même, on avait la discussion avec Prof du Web, avec qui je fais d'autres émissions, Matt, qui comparait au Canada avec les taxes appliquées, ben en fait, ça revenait exactement au prix de l'iPhone 7, quoi. Donc, on est sur du matériel et une promesse haut de gamme. Après, et je crois avoir compris qu'en plus, il y allait y avoir des gros investissements publicitaires. Il y a un magasin qui se monte à New York pour le vendre, il y en a d'autres qui vont arriver, des magasins éphémères. Ils mettent le paquet. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on aurait envie de prendre un Pixel plutôt qu'un Samsung Galaxy S7, qui aujourd'hui est un excellent appareil sous Android? Est-ce qu'il y a une promesse supérieure avec un smartphone totalement Google, en sachant que... Il n'y a pas vraiment de bénéfice réel. Alors, il y a quand même quelque chose de différent, c'est que la version d'Android pour le Pixel va être taillée sur mesure pour le Pixel, et ça ne va pas être forcément qu'une version stock, comme on avait l'habitude de l'entendre et de le concevoir pour les précédents smartphones Google, mais c'est vraiment une version à part entière sur laquelle il y aura des mises à jour et des propositions, des fonctionnalités qui seront réservées au Pixel. Tu avais suivi ça, je crois.
Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire qu'effectivement, Google prend le chemin de Samsung ou Apple, hein, c'est-à-dire qu'il fait un téléphone dans lequel il s'implique beaucoup plus que la normale. Déjà, il fait un téléphone avec une surcouche spécialisée sur lequel est intégré de manière assez profonde le Google Assistant. Donc, c'est clairement une manière d'avoir sa propre plateforme avec son propre Siri intégré. Bon, voilà, c'est vraiment ça. Et en plus, il y a une intégration, enfin, c'est toujours un téléphone qui est fabriqué par un tiers avec des composants standards, on va dire, hein, c'est Qualcomm, voilà, c'est aussi, c'est HTC qui le fabrique, il me semble, ou c'est HTC qui assemble les pixels, bon, voilà, donc tout ça, ça paraît, disons, comme avant, mais en fait, il ne faut pas s'y tromper, d'ailleurs, Google en ce moment est en train d'essayer de passer une forme d'intégration verticale un petit peu comme Apple. Rick Osterloh, qui est donc le chef de la compagnie de la division hardware de Google, dit que pour le moment, même si le Pixel a encore des sources un petit peu partout comme ça, il y a quand même beaucoup de choses qui sont gérées par Google lui-même, c'est-à-dire les composants, la distribution, la pub, comme tu le dis, etc. Et il y a une intégration aussi, des composants électroniques qui sont vraiment choisis et je ne sais pas comment dire ça exactement, parce qu'on n'est pas vraiment au niveau d'Apple, mais on risque de le devenir, quoi. Il y a des chipsets, par exemple, qui sont optimisés par Google. Tu vois, la partie photo, par exemple, elle est extrêmement rapide sur le Pixel, et c'est pas un hasard. Tu vois, le touchscreen, l'écran tactile aussi est très réactif, et il est plus réactif que ce que peut faire la concurrence aussi. Parce que il y a, au niveau du modem aussi, il y a du travail qui a été fait par les ingénieurs de Google pour optimiser le matériel. Donc même si on n'est pas encore à... Google fabrique son processeur, ça risque de venir très bientôt. D'ailleurs, sur le Pixel, il y a marqué « Made by Google ».
Ouais.
Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. C'est-à-dire que même si c'est HTC qui l'assemble et que ce sont des composants qui sont standards, Google se considère comme le constructeur du Pixel. Il n'est pas tout à fait possible que le Pixel soit le premier d'une lignée de téléphone qui soit de plus en plus personnalisé, de plus en plus développé par Google. et exclu qu'on se retrouve avec des composants exactement comme Apple fabriqués par Google et qu'on arrive à une intégration qui soit comparable à celle d'Apple. C'est, apparemment, c'est le but.
Ouais, c'est là où HTC a tendance à se transformer en... enfin, HTC est pour Google ce qui est Foxconn pour Apple, en fait, si j'essaie de transposer un petit peu ça dans des univers proches. Du coup, quand on voit ça, Guillaume, c'est quand même un tournant, ou en tout cas un léger virage dans la stratégie pour les smartphones, pour Google et pour l'ensemble d'un dispositif et d'un écosystème technologique. Alors, on va essayer de répondre de manière manichéenne ou subtile à la question, bien ou pas bien ?
Ben, ça dépend pour qui, je pense. Disons que si vraiment c'est la stratégie qui va être employée par Google dans les années à venir, ben, ça pourrait poser des problèmes, enfin, parce qu'il y aura quand même une grosse différence. Il y aura certainement une différence de traitement avec les autres partenaires, c'est-à-dire effectivement Samsung, LG, Sony, enfin bon, c'est forcé, tu vois. Et je suis pas sûr qu'on y gagne vraiment en réalité, hein, d'ailleurs.
Est-ce que c'était pas la pire chose qui pouvait arriver pour encore enfoncer le clou de la fragmentation des versions d'Android qui est tant décriée ?
Écoute, Samsung commence à chercher du côté de son propre système d'exploitation, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, et du coup, bon, c'est pas exclu qu'un jour on arrive à une scission comme ça, bon, je ne sais pas.
On verra ce que ça donne. Tu voulais rajouter quelque chose sur la conférence Google ou des choses qui tournent autour, ou est-ce qu'on passe à la suite, Guillaume ?
Non, c'est bon, ça va.
Alors, on va passer à une conférence qui, pour moi, bizarrement, alors que j'en attendais pas autant, m'a pas mal bluffé. C'est Oculus Connect, donc je crois que c'est la troisième édition des présentations d'Oculus, qui est donc sous le drapeau de Facebook. Hein. C'est probablement un sujet sur lequel je vais peut-être dire beaucoup de bêtises, parce que d'habitude, je ne le suis pas, ce genre d'événement. C'est quand j'ai commencé à voir les infos qui étaient relayées sur cet événement, les avis qui en étaient donnés et les commentaires qui en étaient donnés, que quelques jours après la conférence, je suis allé regarder la conférence animée par Mark Zuckerberg. Et j'avoue qu'il s'est passé quelque chose, Guillaume. Tu le sais, dans les épisodes de Tech Café, jusque-là, j'avais tendance à dire, moi, la réalité virtuelle, c'est pas un truc qui m'excite, je vois pas trop l'intérêt, je vois pas trop en quoi ça va changer mon quotidien. Et ben ça m'a foutu une claque, parce que j'ai commencé à sacrément bien le voir. Il y a eu une démonstration qui a été assez bluffante, donc animée par Mark Zuckerberg, justement, avec deux autres personnes, où il y avait tout là-dedans. Il y avait, et tu l'as très très bien décrit, il y avait un mix entre Second Life, mais avec des Mii. C'est vrai que sur le caractère des personnages, c'est vraiment ce qu'on peut s'imaginer avoir. Mais il y avait un côté usage très très crédible et très bien abouti. Un côté je me téléporte, j'interagis, je fais des choses dans une réalité virtuelle qui ne sont pas des imitations ou des singeries de la réalité, mais qui sont vraiment des choses qui font sens. On les voit vraiment échanger, notamment avec un jeu, on les voit échanger avec une perche à selfie. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très, très, très crédible. Et j'avoue que ça m'a mis une claque. J'aime beaucoup à la base Facebook, l'entreprise plus que le réseau social encore, j'allais dire. Mais la stratégie qui était donnée faisait beaucoup de sens et était très, très, très cohérente. Est-ce que tu as eu ce même sentiment, toi, en regardant la présentation, ou est-ce que ça t'a laissé un petit peu sur ta faim ? De manière générale, hein, et puis après, on va peut-être détailler, notamment sur la partie hardware.
De manière générale, cette démo en particulier, donc, avec les Oculus Avatar, là, donc, ouais. C'est comme ça qu'ils les appelaient. Alors, il faut quand même savoir que pour le moment, c'est très très préliminaire, parce que il y a des espèces de, je sais pas, emojis, c'est-à-dire ils ont des expressions faciales et des expressions, enfin, tu vois, ils lèvent les bras en l'air quand ils sont contents, ce genre de trucs.
Ils lèvent les sourcils quand ils sont étonnés,
voilà,
j'ouvre la bouche.
Ça, exactement. Ouais. Bah, tous ces trucs-là, pour l'instant, on peut se demander bien comment est-ce qu'on peut les activer. Bon, en réalité, pour le sens, c'est juste avec des boutons sur une pad, quoi. Ils ont un pad et puis ils appuient sur des boutons pour activer ça. Alors la prochaine étape, ce sera de faire ça par soit par tracking de vos gestes, soit par et aussi par analyse de la voix. Donc il y aura des algorithmes qui pourraient traduire à votre posture et à votre le ton de votre voix si vous êtes content, triste, énervé, surpris, et ça déclencherait automatiquement ces émotions, enfin ces espèces d'émojis animés.
L'humour noir et l'ironie vont prendre cher.
Alors, ça va être, justement, il va falloir que ce soit très très bien, que ce soit assez au point. Mais pourquoi pas? C'est le genre de truc qui peut vraiment se faire. Il y a déjà des logiciels qui sont capables d'analyser votre tronche, par webcam, et de dire si vous êtes content, pas content, etc. Bon, à la voix, je pense que c'est tout à fait faisable. Donc oui, je pense que c'est un truc qui peut être tout à fait crédible, quoi, dans un futur. Relativement pas si proche que ça, parce que justement il faudrait quand même que tous les utilisateurs Facebook, qu'une proportion non négligeable d'utilisateurs Facebook aient un Oculus, ce qui, étant donné le prix du package complet, me paraît quand même assez loin. Mais oui, le but de Facebook en achetant Oculus, c'est aussi de transporter, parce que c'est vrai que c'est assez logique, l'expérience sociale et de partage de Facebook dans un espace virtuel où les gens se réunissent. C'est pas la première fois que ça se fait, évidemment, puisque on parlait de Second Life, c'est exactement pareil, sauf que Second Life, bien entendu, c'est pas en VR, donc c'est pas immersif.
C'est moins immersif.
Et du coup, tombe aussi cette espèce de peur ou d'objection qu'on a à la réalité virtuelle, qui est que ça isole les gens. C'est-à-dire, la réalité virtuelle, vous avez votre casque, vous avez l'air débile, et puis vous voyez rien, donc vous êtes totalement immergé dans votre monde, et vous avez l'air du pire des nerds. C'est pas faux, mais comme les jeux vidéo ne sont pas forcément isolants, la réalité virtuelle n'est pas forcément isolante. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Et je pense qu'effectivement, c'est une démonstration qui, très préliminaire, très basique, avec parfois des mis qui ne sont pas forcément super, qui n'ont pas l'air super sérieux. Oui, je pense que ça peut préfigurer quelque chose qui peut effectivement exister dans pas si longtemps que ça, ouais.
Moi, je pense que ça va. Enfin, ça m'a vraiment mis une claque, et peut-être qu'il y a plein de monde qui dira, bah oui, t'es gentil Guillaume, tu réalises ça maintenant, mais on l'avait tous perçu que c'est comme ça que ça se passerait. Mais il y a des bouleversements possibles avec ce type d'usage qui me semble très très fort. Alors, ça peut paraître tout bête, mais tu vois, moi, une semaine sur deux, je me retrouve à faire un jeu de rôle sur table et en papier. J'en reparlerai dans mes bonus avec des copains. Il y a des fois où, pour des raisons d'organisation, les uns les autres, on peut pas faire partie, pas se retrouver. C'est d'ailleurs un peu à l'époque ce qui avait tué d'ailleurs le jeu de rôle, parce qu'il y avait en même temps l'arrivée des consoles et des ordinateurs qui avaient vraiment bouleversé les activités ludiques. Mais avec ce type de truc, et tu fais un jeu de rôle quand tu veux, quoi. Tu fais un jeu de société quand tu veux. Oui, de même, au boulot.
Justement, il me semble que le Loup-garou de Tierce Lieu va sortir sur PlayStation VR.
Ah, mais quelle bonne idée! Mais quelle très, très, très bonne idée! Là encore une fois, un usage hyper convaincant que j'avais pas identifié, c'est clair. Mais tu vois, au-delà même du jeu qui, bon, c'est gadget, mais on sait qu'il y a beaucoup de choses qui passent par là, mais la télé présente, le télétravail, qui est aujourd'hui un concept en France très, 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 les RH en ont peur, quoi. Ça sent dans toutes les entreprises. Le télétravail, pour eux, c'est synonyme de glandeur qu'on peut pas surveiller. Et alors même que les études montrent que les gens qui sont en télétravail ont tendance à être plus productifs, parce que déjà, ils sont pas emmerdés en réunion en permanence. Et en plus, ils ont un souci, justement, une crainte d'être considérés comme des glandeurs. Donc, ils bossent plus qu'au bureau, en a tendance plutôt à leur demander de lever le pied. Mais tout ça pour dire que tu es chez toi et tu es en télétravail, ça pose aucun problème d'avoir une réunion dans un environnement professionnel. Là encore, il y a des bémols à mettre, parce que comme tu dis, on s'imagine pas aller au boulot et avoir au lieu de ses collègues les mis des collègues. Mais quand même, il y a quelque chose qui est extrêmement crédible. Là où j'ai du mal à me rendre compte, c'est quel est le stade de fiabilité technologique de ce qu'on a vu sur scène. Là, j'avoue que je suis plus dubitatif, j'ai du mal à voir des échéances, mais tu vois, pour comparer avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les interfaces à la voix, j'ai l'impression que ces interfaces en VR, paradoxalement, sont beaucoup plus proches de nous dans une version très aboutie et utilisable au quotidien que les interfaces vocales intelligentes telles que tu les décrivais, quoi.
Bah, c'est difficile à dire, mais disons que, à mon avis, c'est clair que la VR, elle aura des répercussions et des usages qui seront beaucoup plus importants hors gaming que dans le gaming, en fait. C'est pour l'instant, c'est vrai que c'est un truc de gamer, c'est un truc de pour les jeux vidéo, pour ceux qui sont fous de jeux vidéo, qui peuvent effectivement se payer aussi ce genre de truc et qui sont prêts à payer pas mal d'argent pour avoir les dernières nouveautés en matière de jeux vidéo. Mais le jeu vidéo, c'est juste la porte d'entrée. Et là, on est vraiment en année zéro de la VR. Il y a une marge de progression qui est absolument faramineuse technologiquement pour tous les casques et toutes les technologies qui sont en train d'être développées. C'est vraiment le tout début. C'est je sais pas, c'est même pas le premier iPhone, quoi. Tu vois, je pense pas qu'on soit encore premier iPhone. Et une fois, si tu veux, que tout ça aura pris une certaine ampleur et sera, disons, plus mature, encore plus mature technologiquement parlant, je pense qu'il y aura des applications dans la vie de tous les jours, dans l'entreprise. Pour moi, c'est assez évident, oui. C'est parce que bon, imagine, pour l'instant, c'est une sorte de gros casque de ski, mais quand ce seront des lunettes sans fil que tu pourras utiliser pour te transporter, et quand tu mettras, je sais pas, des gants tout légers qui permettront de connaître exactement où sont tes doigts, et justement quand ce casque n'aura pas besoin de capteurs partout. Tout simplement parce qu'il sera capable tout seul de savoir où il est, là, ça va effectivement devenir vraiment intéressant. Et je dis ça, c'est pas du tout un rêve, parce que justement, en ce qui concerne le casque qui sait où il est sans avoir besoin de caméra, il y a eu une démo d'un prototype, justement à l'Oculus Connect, qui va exactement dans ce sens, c'est un casque autonome. Alors, c'est un casque qui est pour l'instant c'est vraiment un prototype, hein, mais il est extrêmement intéressant, tout simplement parce que il utilise un système de repérage qui est totalement différent du système standard. Donc, le système standard, juste pour recadrer, pour savoir où vous êtes dans l'espace, où votre tête est dans l'espace et comment elle est orientée, il y a deux caméras, enfin, il y a une caméra et une autre pour les Oculus Touch, mais bon, ça fait. En gros, il y a une caméra, et cette caméra repère des repères, donc ce qui sont, donc elle repère des petites pastilles qui sont sur votre casque, et c'est comme ça que on a tout ça est fait de manière extrêmement rapide, hein, évidemment à l'intérieur du casque il y a aussi des capteurs, et ça permet de manière assez rapide de vous repérer dans l'espace. Bon, évidemment, si on veut être plus libre que ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le casque puisse savoir où il est sans ça. Et la solution, c'est de prendre les caméras et de les mettre dans le casque. En fait, il y a plusieurs caméras autour du casque, et ces caméras, elles sont capables, enfin, elles envoient donc des vidéos grand angle de la pièce, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez des yeux tout autour de la tête, donc c'est ce qui est filmé par ces vidéos est envoyé à un algorithme de deep learning qui est capable de voir, enfin disons, d'apprendre quelle est la géométrie de la pièce, et en fonction de la manière dont vous bougez, de savoir quelle est votre propre position. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne qui fonctionne pas aussi, encore aussi bien que le système passif, on va dire, avec une caméra externe, mais qui fonctionne déjà. Et si vous couplez ça donc à une espèce de une espèce de téléphone mobile, de carte de téléphone mobile, et qui calcule là encore de manière autonome la scène VR, comme le ferait votre téléphone portable dans un Gear VR, vous obtenez un casque qui n'a besoin d'aucun fil, tout simplement. Et ce prototype, qui s'appelle Santa Cruz, était déjà fonctionnel. Alors bien entendu, la puissance de calcul était tellement faible que vous étiez immergé dans un jeu PS1, mais vous étiez immergé dans un jeu PS1 sans fil. Donc c'est pour montrer qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches et beaucoup, beaucoup de choses qui vont devenir possibles avec l'accroissement des capacités de calcul sur les puces mobiles, l'accroissement de la finesse des écrans. On en parlera aussi d'ailleurs avec le CEATech. Et voilà, donc il faut voir vraiment cette année 2016 comme l'année zéro. Et à mon avis, ça ne va faire que... Voilà, l'essor de la VR commence cette année, mais à mon avis, ça va être assez long, mais énorme.
On va reparler d'ailleurs des usages après, mais pendant que tu parles de hardware, on peut faire peut-être un petit statut. Il y a aujourd'hui la possibilité de chiffrer assez clairement le nouvel écosystème complet de l'Oculus Rift. Il va falloir que je débourse combien, Guillaume, pour profiter de tout ça de manière satisfaisante?
Ça dépend de ce que tu as déjà. La bonne nouvelle, c'est que
admettons que j'ai rien.
Alors, ça a été chiffré à $1,500. Tout simplement parce que, alors c'est peu, hein, c'est moins qu'avant, c'est $500 de moins, je pense, un truc comme ça. Tout simplement parce que Oculus a inclus une fonctionnalité au sein même du SDK qui permet de diviser par deux la puissance nécessaire de la carte graphique. Avant, une carte graphique minimale, c'était la GTX 970, donc une carte graphique haut de gamme, et assez chère. Et maintenant, une RX 470 d'AMD est suffisante. Ce qui fait qu'un PC à $500 est désormais suffisant pour avoir une, comment dire, un taux de rafraîchissement effectif dans le casque de 90 images par seconde, même si en réalité l'application ne se rend qu'à 45 images par seconde. Donc c'est un système qui s'appelle l'Asynchronous Time Warp. C'est comme ça que ça s'appelle.
En gros, il en calcule 45 et il en restitue 90 images par seconde, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que grosso modo, quand tu... Alors, pour pas gerber avec un casque de réalité virtuelle, il faut une DAPO Oculus, et c'est vrai que c'est assez proche de ça. Il faut que vous ayez un très fort taux de rafraîchissement. Il faut que les images défilent très très vite. Et pour pas qu'il y ait de latence, et donc 90 images par seconde, c'est un minimum. Alors le truc, c'est que, évidemment, ces 90 images, elles sont calculées en fonction de la position de votre tête, qui est elle aussi samplée à cette fréquence-là. Si l'application tourne moins vite, ben, il est toujours possible d'intercaler des images qui sont légèrement déformées par rapport à la position du capteur. Ce qui est intéressant, c'est que la Synchronous Time Warp, il fonctionne avec les capteurs, c'est-à-dire que la position de votre tête est scannée deux fois plus vite que potentiellement deux fois plus vite que ce que le jeu a besoin, et ça permet d'avoir une véritable image référence, d'avoir la position du capteur avant, la position du capteur après, et ça permet avec ces trucs là de déformer très légèrement l'image réelle pour intercaler une image virtuelle très légèrement déformée en fonction de la vélocité enregistrée des capteurs, ce qui permet de doubler le nombre d'images par seconde effectif. Et du coup, ça permet de jouer avec des cartes graphiques qui sont beaucoup moins puissantes, deux fois moins puissantes, et ça permet aussi de faire baisser la facture à un PC qui est effectivement beaucoup plus abordable, quoi.
Et encore une fois, là, c'est le début, donc on peut imaginer qu'avec le temps, ça puisse baisser de prix rapidement.
Par contre, évidemment, il faudra quand même acquérir un Oculus Rift qui coûte quelque chose comme 600 €, je crois. Ouais. Et il faudra aussi acquérir donc les Oculus Touch, qui n'étaient pas
encore
sortis.
Alors ça, c'est intéressant. Elles ont été présentées à cette conférence, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a eu une présentation des Oculus Touch. Alors ceux qui ont un Vive se gosseront, puisqu'effectivement les manettes spécifiques donc à la réalité virtuelle sont incluses dans le Vive. Alors que c'est pas du tout le cas pour Oculus. C'était fourni avec une manette Xbox One. Mais à partir du 10 décembre pour $199, vous pourrez aussi avoir les manettes qui permettent d'intégrer vos mains dans l'espace virtuel avec votre Oculus Rift. Les Oculus Touch, donc, qui sont pas mal du tout. Alors, ça se présente sous forme d'espèces de deux manettes que vous prenez dans chacune des mains.
Coupées en deux, un peu.
Oui, mais non, pas vraiment, en fait. Elles sont plutôt bien foutues dans le sens où même si tu les serres pas, t'as pas besoin de les serrer, quoi. C'est-à-dire, tu les poses et elles sont capables de, elles tiennent quand même, tu vois. Il n'y a pas besoin de les tenir comme si c'était des PS Move, par exemple. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et en plus, elles sont relativement intelligentes parce que, du coup, évidemment, elles sont repérées dans l'espace donc par cette deuxième caméra dont je parlais tout à l'heure. Donc les Oculus Touch sont livrés avec une deuxième caméra grand angle qui permet de les repérer elles dans l'espace et qui complémente la deuxième caméra pour les fois où elles seraient occultées par la première caméra. Et du coup, vous avez la position et l'orientation de vos mains dans l'espace, et les boutons sont capables aussi de savoir si vous avez les doigts dessus ou pas. Donc non seulement vous pouvez cliquer sur les boutons et parce qu'il y a des petits sticks aussi, mais ils sont aussi capables de savoir si vous avez les doigts dessus, même si vous ne les cliquez pas. Donc ça permet de mimer des gestes comme vous montrer avec l'index, le pouce relevé, etc. Donc il y a pas mal de gestes qui sont reconnaissables assez facilement, et tout ça marche plutôt bien, très rapidement. Donc apparemment ce sont de bonnes petites manettes, quoi.
Je crois que c'est ça qu'il utilise dans la démo, Mark Zuckerberg. Pour un moment, il va même jusqu'à choisir des photos qu'il vient de prendre,
oui,
justement, avec sa perche à vide. Mais cette petite phase m'a paru même étonnante de précision. On sent que, alors bon, encore
c'est
une fois,
hein.
Comment ?
C'est pas des Wiimotes quand même, hein.
Oui, non, mais tout à fait. Mais ça laisse imaginer, encore une fois, les possibilités. Et quand on voyait ça, il n'y avait pas un côté gadget, quoi. Quand on voit la présentation, il n'y a pas du tout un côté gadget. Il y a un côté très, 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 très concret, très, très réel. Et du coup, tu vois, je me posais la question par rapport aux usages. Je me laissais aller à rêver un peu sur le sujet. On parlait tout à l'heure, par exemple, du télétravail. Je m'imagine bien aussi, tu vois, la file des attentes à la préfecture pour aller récupérer ta carte grise ou des trucs comme ça, des trucs d'administration. Et assez vite, je me suis dit, mais finalement, il va très, très rapidement être identifié un problème de certification des avatars, j'imagine. J'imagine qu'au bout d'un moment, il va falloir s'assurer que l'avatar de telle personne, c'est bien telle personne qui est derrière, avec des risques de piratage sans doute. Mais il y a quand même quelque chose qui va tourner autour de la sécurité par rapport, enfin, dès qu'il y aura en place des services, parce que tant que ça reste du jeu, c'est pas très, très utile. Mais...
Bah, oui, mais c'est comme quand tu vas sur Internet et que tu te logues sur le site de ta banque, hein. Tu sais, ce sera un petit peu la même chose, je pense.
Ouais, sauf que là, ça reste très visuel, quoi. Donc,
il faudra trouver des... Bah, tu sais, il n'est pas exclu qu'il y ait des caméras qui... Il y avait eu un prototype comme ça d'Oculus Rift qui était équipé d'une petite caméra pour suivre le mouvement des yeux. Ça permettait de faire du rendu sélectif uniquement où vous regardiez. Ça a même un nom maintenant, ça s'appelle Foveated Rendering. Donc ce truc-là pourrait être utilisé éventuellement pour scanner tes yeux et pourrait servir de si c'était un petit peu plus évolué, ça pourrait servir de scanner d'iris, tu vois, par exemple. Mm-hmm. On peut imaginer plein de trucs qui soient intégrés directement au casque dans un futur proche.
Tu avais quand même mentionné dans le doc de l'émission un buzz suffisant pour faire oublier le Lucky Gate, Guillaume.
Ouais, mais t'as certainement entendu parler de cette histoire. Ouais. C'est Palmer Lucky, donc refinancé à hauteur de $10,000 quand même. Nimble America, qui est une machine à même qui fait la promotion de Trump. Enfin, c'est du alt-right, donc c'est des gens qui sont vraiment pas très très malins. Qui sont spécialistes de la controverse et qui sont vraiment des gros connards, quoi. Et du coup, c'est vrai que
c'est le fondateur d'Oculus Rift,
qui est fondateur d'Oculus Rift, les a financés à hauteur de $10,000. Bon, on se demande un peu d'où ça sort. Ça a eu quand même un énorme retentissement parce que il y a quand même des développeurs qui ont dit qu'il ne le développerait plus sur Oculus Rift à cause de ça. Je trouve ça vraiment dommage, parce que Oculus, c'est une plateforme technologique qui a ses avantages, et je pense qu'il y a ses points forts. C'est quand même dommage qu'il y ait c'est affligeant en fait, hein, qu'il y ait ce type de truc qui parasite le développement sur une plateforme qui, sinon, est tout à fait convenable, quoi. Donc ouais, c'est vraiment pas très... Disons que Palmer Lucky, c'est vrai que c'est très très spécial comme mec quand même. Hein. C'est pas le point fort d'Oculus, on va dire.
En tout cas, il était pas présent. Il était pas présent sur scène.
Non, il était pas présent à l'OC3, donc à l'Oculus Connect. On se demande pourquoi.
C'est vraiment bizarre, c'est très étonnant. On va boucler un petit peu les usages, juste pour mentionner, alors c'est un article que j'ai vu passer hier sur Numérama, le camp d'Auschwitz a été reconstruit en VR pour aider la justice allemande parce qu'il y a pas mal de procès qui continuent par rapport à ce qui s'est passé. Il paraît qu'il y a eu une seconde guerre mondiale avec des événements pas jolis jolis dans des camps de concentration. Et il y a encore des procès qui ont lieu sur ce sujet. Voilà, il y a un des éléments qui permet d'avancer dans des espèces de reconstitution de ce qui a pu se passer avec du avec de la VR. Donc le camp d'Auschwitz a été reconstruit en VR, là encore un usage où j'imagine il y a plein de choses qui vont être bouleversées, et même on peut en rêver peut-être, pourquoi pas, le voyage dans la galaxie. On va en reparler là encore une fois, et dans les news on peut imaginer pourquoi pas demain aller se balader dans l'espace, aller se balader dans le système solaire et dans la galaxie. Rêvons un petit peu. On va faire une petite parenthèse juste pour remercier nos tipeurs et puis rappeler un petit peu le dispositif qui est Tipeee, qu'on a lancé pour l'association Tech Café, créée d'ailleurs à l'occasion. C'est une association qu'on a créée pour recueillir vos participations financières si vous le souhaitez. Vous le savez, Tech Café est disponible gratuitement pour tout le monde, mais si jamais vous le souhaitez, si jamais ça vous apporte quelque chose, si jamais vous êtes content de nous écouter, eh ben vous pouvez aller sur le site Tipeee, T-I-P-E-E vous cherchez Tech Café et vous avez une page qui vous présente le dispositif. L'idée, c'est que vous pouvez déposer, vous engager, alors soit déposer des sous en une fois, mais à la limite, plutôt que de mettre un montant important en une fois, nous, ce qu'on préfère, c'est que vous nous suiviez dans le temps et que vous déposiez un petit montant. Donc, ça peut se faire des 1 euro par épisode. Et puis voilà, après, vous êtes automatiquement prélevé à la publication de chaque épisode. Bien entendu, vous pouvez annuler, j'ose pas parler d'abonnement, mais vous pouvez annuler votre participation à tout moment. Et puis, bah, vous contrôlez à l'avance. Vous pouvez aussi mettre un plafond dans la participation que vous faites. À quoi sert l'argent récolté par l'association? Bah, tout simplement à payer les petits hébergements qu'on peut avoir, que ce soit pour le compte SoundCloud ou pour le site web, mais aussi pour vous faire gagner des produits qu'on peut être amené à tester en commande. Donc, c'était le cas du OnePlus 3 la dernière fois. Et évidemment, il va y avoir d'autres produits qui arrivent. L'occasion, en tout cas pour moi, de saluer Pouyou qui nous a rejoint parmi les tipeurs depuis le précédent enregistrement. Guillaume, on passe au CEATech. Le CEATech, si c'est quoi et qu'est-ce qu'on a pu voir de beau au CEATech cette année?
Le CEATech, c'est un petit peu l'IFA ou le CES japonais, puisque ça se tient à Tokyo. Et ils sont présentés plein de choses qui sont extrêmement hétéroclites, mais toujours ultra technologiques, ultra high-tech. Alors, il y a un petit peu tous les constructeurs qui y sont. Japon oblige, il y a aussi pas mal de robots, et puis il y a bien entendu les constructeurs nationaux qui sont là pour montrer leurs derniers trucs, et en particulier, il y a aussi Sharp, qui fait désormais partie de Foxconn, mais qui reste une entreprise qui est complètement indépendante, et qui continue bien entendu à faire des écrans, et les écrans parmi les meilleurs du monde, hein, puisque Sharp, pratiquement les inventeurs de l'écran LCD, c'est encore aujourd'hui quelqu'un qui innove beaucoup dans ce truc-là. Alors, tu avais vu, il me semble d'ailleurs, parce que celui-là a fait le tour des internets, tu as certainement vu le Corner Air, le smartphone sans bord, qui
préfigure ce que sera la prochaine évolution des smartphones de toutes les marques possibles et imaginables dans les prochaines années.
Très probablement. Alors, c'est vrai que c'est un smartphone de 5 pouces qui a pas l'air, bon voilà, c'est juste, non, 5,2 pouces. Il a un écran Full HD, ça a pas l'air extraordinaire. Il a un écran 2,5D. Alors, 2,5D, c'est un écran qui n'est pas tout à fait plat, c'est-à-dire qui est très légèrement courbé sur les rebords. C'est le cas de beaucoup S7 de téléphones Edge. haut de gamme, voilà, le Edge aussi, mais pas seulement. Par exemple, le Mate 8 de Huawei a un écran 2,5D, mais il n'y a pas vraiment l'écran sur les bords, c'est juste que l'écran est légèrement arrondi pour faciliter la prise en main. Dans tous les
cas, il n'y avait pas un LG aussi qui était incurvé verticalement vers l'intérieur?
Oui, c'est vrai, mais ce n'était pas exactement la même chose. Là, c'est plutôt une manière de fabriquer les écrans, si tu veux, pour avoir une surface qui puisse être courbée à certains endroits. Mais là, Sharp va encore plus loin, en fait. Donc, d'une part, les écrans, donc là, sont complètement vont jusqu'au bord, donc il n'y a vraiment aucun bord sur le...
C'est magnifique.
C'est vrai que c'est pas mal, sur le Corner Air. Et en plus, il y a une technologie qui s'appelle Freeform, qui permet d'avoir une dalle qui n'est pas forcément carrée, et du coup, on a des bords arrondis, des coins, pardon, arrondis. Donc, au lieu d'avoir un rectangle, vous avez un rectangle avec des coins très légèrement arrondis. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est un design qui peut avoir ses amateurs.
Par contre, il est où le haut-parleur? Il est où le haut-parleur? Il est où? On se demande.
Mais on s'en fout.
Non, moi je veux un haut-parleur, je veux pouvoir téléphoner avec.
Ah oui, tu veux un téléphone aussi? Non, mais non.
Eh oui, je veux tout, moi, monsieur.
Sharp continue à innover. Alors, Sharp parie sur l'IGZO, sur une technologie d'écran. IGZO. Alors, IGZO, c'est une technologie TFT qui veut dire indium, gallium et oxyde de zinc. Donc, zinc oxide. C'est une technologie qui se différencie du silicone amorphe par justement la possibilité de faire des transistors TFT de toute petite taille. En clair, ça veut dire que ça fait des écrans qui peuvent être de plus haute résolution et qui peuvent être aussi plus lumineux. D'ailleurs, ça va avec, hein, parce que plus vous avez des petits transistors TFT, au moins la grille de contrôle des pixels est visible, et au moins la grille de contrôle des pixels est visible, au plus vous pouvez mettre des pixels sur votre écran. Du coup, Sharp a réussi avec du IGZO à montrer un écran de 27 pouces qui est 8K, qui fonctionne à 120 Hz et qui est HDR. Donc ça, c'est, je crois qu'il a absolument tout.
C'est l'écran qui claque sa maman.
C'est un écran donc 7680 par 4320 en 10 bits. Et donc il tourne à 120 Hz. Alors 120 Hz, ça veut dire qu'il faut une bande passante de 15 gigaoctets par seconde pour l'alimenter. C'est-à-dire que pour l'instant, il est alimenté par 3 DisplayPort, parce que sinon il n'y a pas assez de bande passante pour alimenter la totalité de l'écran. C'est quand même assez extraordinaire. Donc bon, ça paraît un petit peu low voltage, mais bon. Certainement, ça, dans le futur, ça deviendra assez courant. Toujours est-il que le plus intéressant, finalement, plus intéressant que cet écran de 27 pouces, il y a peut-être cet écran de 2,87 pouces qui a une résolution de 1920 par 2160, qui a donc une densité de pixels de plus de 1000 pixels par pouce. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on imagine très bien ce type d'écran dans un casque de réalité virtuelle, parce que ça représente quand même 4 fois la résolution de l'Oculus Rift ou du HTC Vive.
Ah, yeah.
Et donc là, on comprend immédiatement qu'il y a une énorme marge de progression, si tu veux, sur les casques actuels.
Ouais, c'est clair. Mais enfin, pour la VR, j'imagine qu'effectivement ça justifie. Après, pour le reste des usages, tu sais ce que j'en pense. Je me dis toujours, est-ce que ça justifie d'aller. Bon, c'est toujours bien pour la prouesse technologique, mais en termes d'usage, est-ce qu'on a besoin de ça, quoi?
Bah écoute, on aura une grosse discussion de CDC sur les nouvelles télé, alors, hein, parce qu'on va parler de ça aussi.
Bon, parfait. Quoi d'autre au CEATEC, du coup?
Écoute, plein de trucs rigolos. Moi, j'ai bon après, c'est vraiment, j'ai trouvé ça rigolo, mais enfin, c'est pas forcément super intéressant. Mais quand même, j'ai vu qu'il y avait une sorte de mode qui allait arriver ou qui était déjà là, mais moi, je l'avais pas vu. Celle du full body scanning. Ce sont des scanners d'espèce de, alors, c'est une sorte de photomaton, sauf que au lieu de prendre votre tête, c'est vous rentrez dans le photomaton et vous êtes scanné en 3 dimensions, couleur comprise, et on vous donne, au lieu d'avoir une photo, on vous donne votre modèle 3D texturé à la sortie. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Tout simplement.
Avoir les mensurations pour acheter des habits à votre taille.
Exactement. Il y a les applications sont assez variées. Alors d'une part, vous pouvez faire un selfie en dur, c'est-à-dire envoyer ça à quelqu'un qui vous fasse une impression 3D de vous-même. Et ça, c'est quand même la classe. Il faut quand même le dire.
Et aussi, ça fait un avatar parfait pour la VR.
Si vous voulez être en slip, donc vous-même en slip dans Call of Duty, écoute, peut-être un jour ce sera possible grâce à ça. Et ça, c'est quand même super cool aussi.
T'envoies du rêve.
Et le truc, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ça existait déjà. C'est-à-dire, tu peux aller sur Internet, il y a un truc qui s'appelle Shapeify, qui te vend un modèle 3D de toi-même pour 20$. Alors, tu te dis, bon, c'est déjà cool. Mais là, il y a ShaneX, ok, ça s'appelle le ShaneX, qui était présenté au CEATEC, qui est un photomaton 3D qui te prend en photo, qui te scanne en 4 secondes. Et qui le fait pour la moitié moins cher.
Seulement
4 secondes. Et qui le fait donc pour la moitié moins cher.
Mon scanner à 4 est plus long que ça, je crois.
Ah, oui, probablement. Ouais. Et probablement le mien aussi. Le mien aussi. Et donc, bon, écoute, le photomaton complet pourrait coûter dans les 70 000 $. Et un scan 3D de toi-même en pied pourrait te coûter dans les 10 $ grâce au ShaneX. Donc, rien que pour ce truc aussi, les prix sont en train de baisser. Bon, ça peut être très très amusant, puisque effectivement, tu peux prendre des photos 3D de toi. Imagine qu'il y ait des algorithmes pour te riguer, c'est-à-dire pour te donner un squelette. Tu pourrais effectivement l'intégrer dans des applications. On parlait des avatars Oculus. Peut-être un jour, tu arriveras avec sur ta carte ou sur ta clé USB, ton toi-même, et ton toi-même sera intégré dans la réalité virtuelle, et ça pourrait être assez sympa. Je sais pas si ça t'évoque quelque chose.
Oui, oui, complètement. Excuse-moi, j'avais coupé le micro. Mais en plus, avec l'impression 3D de demain, avec la robotique, on va pouvoir se créer des copies de soi-même robotisées. En fait, ça va être vraiment génial, sans parler de VR. Hein. Mais de se numériser, de s'imprimer 3D et de foutre un squelette robotisé là-dedans, ça peut être rigolo.
Il faudrait qu'il y ait ses propres Hubo. Voilà, si vous n'avez pas vu Real Humans, c'est le moment d'essayer de le trouver, pas, quelque part.
Et puis du coup, c'est très bien pour aller faire les repas en famille pour les fêtes de Noël, quand on n'aime pas ça. Mais du coup, en parlant de robots, il y a des petites choses que tu as vu passer qui sont... Alors, c'est pas exactement ce qu'on vient de décrire, là.
Non, pas du tout. Moi, je suis assez étonné par le Kirobo Mini. J'ai été vraiment choqué par le Kirobo Mini parce qu'il est super mignon. Le Kirobo Mini, c'est la version mini du Kirobo. Et le Kirobo, c'était un robot humanoïde bipède qui était relativement évolué quand même, hein, et qui avait passé 18 mois en orbite dans l'ISS. ISS en 2013, entre août 2013 et février 2015. C'était un robot astronaute qui avait été envoyé là-bas pour faire rigoler les astronautes, hein, quand même, il faut le dire.
Faut bien les détendre.
Voilà, donc il faisait 34 cm. C'était un joli petit robot. Bon, évidemment, il devait être un petit peu cher. Du coup, la version grand public ne mesure que 10 cm et ne fait pratiquement rien. Elle a une petite tête mignonne. Elle est assise, elle a une petite tête mignonne. Et elle te parle, en japonais, évidemment. Et c'est tout. Et ça coûte 350 euros. Alors,
ça fait cher, quand même.
C'est vraiment marketé comme un robot compagnon. C'est probablement le plus inutile de tous les robots compagnons, puisque j'avais déjà parlé du robot de RoboHon, le robot téléphone. J'avais déjà parlé sans doute aussi du Zenbo, le robot boule d'Asus. Il y avait aussi Pepper, hein, le robot d'Aldébaran, qui est relativement connu. Donc il y a plein de robots comme ça qui sortent. On ne sait pas trop pourquoi. Pour les gens qui sont vraiment très seuls. Parce que c'est vrai que si tu te fais remonter le moral par un Kirobo Mini de 10 cm, c'est quand même un petit peu triste.
Bon, après tout, pourquoi pas, cela dit.
Mais
tu sais, il y a deux trucs que ça m'évoque. Alors, déjà, il y a quand même un peu un aspect fumisterie, parce qu'effectivement, ils disent qu'en gros, il ne sait rien faire. Mais il a une intelligence artificielle et il apprendra à vos côtés. Sauf qu'en fait, ça fait un petit moment maintenant qu'on tourne autour de l'intelligence artificielle et qu'on voit bien que ce n'est pas quelque chose de magique qui va apprendre à faire des choses telles qu'on se l'imagine être possible. Ça, bon, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, d'ailleurs.
C'est quand même vraiment intéressant quand même dans ce truc. Alors, parce que comme Kirobo, c'est quand même pas le Kirobo Mini, là, c'est quand même pas le premier robot japonais de ce type-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est l'attitude des Japonais par rapport aux Européens vis-à-vis du robot auquel on peut discuter, auquel on peut parler, quoi. Tu vois, c'est-à-dire les Américains, ils font Amazon Echo. C'est un espèce de cylindre noir qui est impersonnel au possible et qui est là pour faire des trucs utiles. Qui est là pour servir toute la famille et voilà, faire à ta place des trucs chiants. Bon, ok. Alors que les robots japonais, et en particulier le Kirobo, ben, ça ressemble pas mal. C'est une espèce de robot que tu poses et qui bouge pas tout seul, et auquel tu peux parler et qui peut te répondre. Bon. Mais la grosse différence, c'est que les Japonais ont un véritable affect. C'est-à-dire, c'est un robot affectif. Kirobo oui. N'est pas là pour faire des choses utiles.
Il n'est pas là pour être utile.
Ouais. Il est là pour te parler, pour te tenir compagnie. Il est là pour être mignon. D'ailleurs, il est très très mignon. Alexa, c'est juste, enfin, genre, il est aussi, il est à peu près aussi attachant qu'un magnétoscope, quoi. alors que Kirobo, il est parfaitement adorable. Tu vois. C'est Et RoboHon aussi. RoboHon est parfaitement adorable. J'ai aucun Européen ou Américain n'aurait jamais imaginé transformer son iPhone. Enfin, mettre des pattes à son iPhone, des bras et une tête. Je veux dire, il faut être japonais pour mettre de l'affect, pour humaniser un téléphone mobile ou un assistant domotique, quoi, tu vois.
Oui,
et
oui.
Ça, par contre, c'est vraiment fascinant, je trouve, avec les robots.
C'est clair, il y a quelque chose d'assez bluffant et c'est vraiment très culturel. Après, j'essaye de me transposer par rapport à des situations. Bon, clairement, ça ne changerait pas la donne, mais déjà, à la fois en termes d'usage pour ce type d'appareil qui est simplement fait pour tenir compagnie et le côté personnifié, je vois par exemple des personnes qui sont en situation de dépendance, notamment tu vois des personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, des trucs comme ça. On pourrait imaginer avoir voilà, des flottes de compagnons autour et simplement en fait le fait de tenir compagnie et de rappeler des choses simples du quotidien que ces gens-là perdent dans leur capacité, bah, finalement ça joue vachement le truc. Et je pense pour le coup que ce soit culturel asiatique ou culturel européen ou culturel ce que tu veux, qui aurait une adoption plus forte. Bon, enfin, je caricature peut-être un peu, j'en sais rien. Mais plus forte parce que le truc est personnifié plutôt que dans le fait de poser un espèce de truc qui ressemble à un vase qui parle, quoi.
Mais tu sais que le pire, c'est que moi, si juste... Parce qu'en fait, je me rends compte que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt client de ça, quoi. Parce que moi, qui me plaît pas finalement dans Alexa, c'est que c'est aussi attachant qu'un magnétoscope, parce que pour moi, justement, je parle pas à un magnétoscope. Tu vois, si c'était un Kirobo Mini qui me parlait, je sais pas, peut-être que ça ferait tomber mes réticences. Peut-être
ça te ferait passer mieux la pastille du fait qu'il t'écoute tout le temps, ça se trouve. Parce que t'aurais pas l'impression que c'est des serveurs de Google qui t'écoutent tout le temps, mais ce serait un Kirobo Mini.
C'est exactement ça. En fait, il fait pour moi, peut-être.
Va savoir. Bon, et alors, si tu veux... Oui, bah, il est jamais trop tard. Si tu veux, en tout cas, à défaut d'avoir de la compagnie avec un Kirobo Mini, si tu as envie d'un petit peu de narcissisme, est-ce que tu peux te tourner vers Panasonic?
Ouais, un des trucs le plus what the fuck que j'ai trouvé quand même sur le salon, c'est probablement le miroir de Blanche-Neige de Panasonic. Puisque c'est un miroir qui... C'est un beau miroir. Tu le regardes, il te prend en photo, il te dit « t'es moche », et il te dit « attends », il t'imprime une décalcomanie pour te mettre sur la gueule, tu te la mets dessus, et après t'es beau. C'est vraiment ça. C'est un miroir qui détecte là où tu as besoin de maquillage, qui t'imprime le maquillage précis qu'il faut, et pour que tu puisses ensuite te l'appliquer directement. Voilà. C'est assez extraordinaire quand même.
C'est très japonais, non ?
Écoute, c'est indiscutablement japonais, mais en tous les cas, j'ai trouvé qu'on atteignait quand même un vrai sommet, quoi. C'est bon.
Écoute, ça valait le coup en tout cas de nous faire tous ces petits relais. Moi, j'avais pas vu passer tout ça, Guillaume. Donc, merci beaucoup. Et puis, on va passer à notre rubrique suivante. On va parler largement de Samsung. Alors, largement, ça veut peut-être pas forcément dire qu'il va y avoir des milliers de choses à dire, mais on voulait quand même mentionner parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent de leur côté. Déjà, quelque chose d'assez positif. Ils ont racheté Vive. Alors, je sais plus d'ailleurs comment on doit le prononcer. Il me semble que c'est comme ça, hein, Vive, qui est le petit grand frère de Siri. Donc, vous savez, hein, c'est les créateurs de Siri qui étaient repartis de leur côté pour créer un Siri tel qu'il aurait aimé et tel qu'ils auraient aimé qu'il soit s'il n'avait pas été racheté par Apple et un peu tué dans l'œuvre. Donc, la super interface Vive qui a été rachetée par Samsung. C'est un bon coup pour toi de la part de Samsung, ça, Guillaume ?
Ben, je pense, oui, parce qu'on avait déjà parlé de Vive. Il y a une démo vidéo qu'on avait commentée qui était impressionnante parce que justement Vive avait par rapport à Siri et Alexa la capacité justement de, enfin c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de discuter, c'est-à-dire qu'elle pouvait non seulement répondre à des requêtes mais aussi demander des compléments d'information. Il y avait une certaine forme de dialogue qui pouvait s'établir avec Vive, ce qui n'était pas possible à l'époque avec Siri, ce qui est d'ailleurs toujours pas trop possible il me semble, et donc il y avait quand même une vraie valeur ajoutée. C'est vrai que Samsung, évidemment il a l'intelligence de Google derrière, hein, puisque c'est sous Android. Mais si Vive est aussi évolué et aussi sophistiqué que ça et est prêt pour le déploiement, c'est un vrai concurrent pour le coup de Siri et de Google, de OK Google. Je ne sais pas comment s'appelle l'intelligence de Google, ça s'appelle comment ?
C'est Google Assistant, non ?
Ah oui, c'est Google Assistant maintenant. Oui, c'est vrai, c'est nouveau. Et oui, c'est vrai. Maintenant, c'est Google Assistant.
Ça vient de sortir.
C'est Google Assistant. Maintenant, elle a un nom, ça y est. Donc voilà. Donc par rapport à Google Assistant, il y avait quand même une vraie valeur ajoutée. Je pense que c'est pas du tout idiot parce que, si les trucs existent déjà, pourquoi aller les redévelopper, quoi? Donc on sait pas combien ça leur a coûté, par contre, hein, d'acquérir VivLab. En plus, bon, si, comme il est aussi possible que ça arrive un jour, Samsung fabrique son propre système d'exploitation et n'a plus accès à Google Assistant, ou ne souhaitent plus avoir accès à Google Assistant, Vive, je pense que c'est une excellente idée. Ça leur permettra d'avoir, comme Apple et Google, une porte ouverte sur tous tes besoins, quoi, parce que c'est aussi une source de données, hein, un assistant comme ça, un assistant vocal.
C'est marrant de voir que pour les constructeurs, ou en tout cas ceux qui fournissent ce type de produit, finalement, l'interface intelligente devient plus importante qu'un moteur de recherche, quoi. On se rend compte qu'un Apple, finalement, bon, ils peuvent s'appuyer sur Google en partie, sur les requêtes, sur le web, etc. Mais à côté de ça, il y a vraiment l'interface. Google, il leur faut l'assistant et ils le font aussi très bien. Microsoft a la sienne avec Cortana et Samsung qui rachète Vive. On voit que c'est quelque chose qui est incontournable. Alors qu'il y a quelques années, j'aurais dit que ce qui était incontournable pour un acteur comme ça, avant une interface de ce type, c'était un moteur de recherche. Mais comme quoi.
Attends, j'ai pas dit que ça allait faire vendre ou faire survendre des Samsung. Hein. Ça, j'en sais rien. Mais je pense effectivement que Vive. Vive a l'air assez intelligente, quoi, comme AI, là, comme intelligence artificielle. Et bon, s'il fallait en racheter une, je pense que celle-là, elle est pas mal, quoi, voilà.
Allô ?
Oui, allô ? Tu m'entends?
Ouais, ça coupe là, il y a eu un blanc.
Ah,
si ben, en racheter une, tu disais c'était bien celle-là qu'il fallait reprendre.
C'est ça, exactement. Désolé, je t'entendais.
Mais il y a peut-être que nos chers auditeurs n'entendront rien, parce qu'on le rappelle, on passe désormais par Zencaster qui enregistre en local nos conversations et qui mixe tout ça très bien. On continue avec Samsung. Alors, on va faire un petit écho, puisqu'on avait déjà parlé de l'affaire des Note 7. Et ben, on va continuer à en parler un petit peu parce qu'on a reçu cette fois-ci un avis de décès aujourd'hui. Samsung arrêterait la production du Note 7. Je pense qu'il était plus vraiment possible de faire autrement. Jusque-là, il était possible de moins en moins, mais quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, de rigoler un petit peu de cette situation, de trouver que c'était un peu cocasse de voir ces Note 7 qui prenaient feu. Surtout qu'il y avait quand même tout un terrain...
C'était pas arrivé.
Non, c'est clair, surtout. Alors... Bon, on va boucler toutes les news et puis on va pouvoir compléter, mais ils ont aussi arrêté aujourd'hui, en plus de l'arrêt de la production, ils ont aussi bloqué l'utilisation du Gear VR avec le Note 7. Et j'ai réalisé quand ils ont annoncé ça qu'effectivement, si jamais il y avait eu une catastrophe avec un Note 7 qui prenait feu lors d'une utilisation en Gear VR, ce qui me paraissait pas improbable vu les circonstances, ça aurait pu être effectivement catastrophique. Non, moi j'en souriais et je trouvais qu'il y avait un côté vraiment... presque humoristique, un peu humour noir, mais humoristique dans le sens où c'est frais. Enfin, on a toujours entendu des histoires d'iPhone qui prennent feu, des histoires de smartphones de manière générale qui prennent feu. Et puis, il y avait quelque chose de l'ordre de la blague, de la légende urbaine, parfois de l'accident isolé. Et là, il y avait quelque chose qui se répétait. Et c'est incroyable de voir qu'en quelques jours, Samsung se retrouve dans une situation où même commercialement parlant, c'est une catastrophe pour eux. Le cauchemar continue parce qu'en plus, il y a eu des messages qui ont été adressés par erreur à des clients d'après les infos qui sont ressorties. Hein. Il faudrait revérifier tout ça 10 fois, mais qui laisse imaginer qu'au début, ils ont voulu que ça fasse pas trop de bruit. Et pour cause, je serais à leur place. J'aurais pas trop envie que ça fasse de bruit. Et puis, on arrive quand même à une situation aujourd'hui où le chiffrage de cette affaire pour Samsung représenterait la bagatelle de 15 milliards d'euros. J'ai été complètement estomaqué quand j'ai vu ces chiffrages. Je suis évidemment pas économiste, financier et je contrôle pas des lignes de production industrielle, mais il y a quand même plein d'impacts en termes d'image, en termes de...
Justement, je sais pas si ça...
Donc,
inclut le déficit d'image, quoi.
Je crois que c'est pas inclus justement dans ces 15 milliards.
C'est ça le gros souci. Et le gros souci, si tu veux, c'est que là d'ailleurs, on le répète, hein, si vous avez un Galaxy Note 7 et que vous nous écoutez, surtout ramenez-le, ne l'utilisez plus. On est obligé aujourd'hui pas de déconseiller, mais de formellement de dire ramenez votre téléphone. Parce que là, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un problème sur la batterie des Note 7, certains prenaient feu. Et donc évidemment ils ont fait un rappel de tous ces Note 7 et ils en ont renvoyé donc des Note 7 qui supposément étaient des bons, quoi, des trucs qui étaient sûrs. Or, à l'heure actuelle, on en est au 7e cas, il me semble, de bons Note 7, de Note 7 remplacé qui a pris feu. Donc c'est-à-dire que à l'heure actuelle, utiliser un Note 7, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux, c'est-à-dire que une batterie Helion qui prend feu, c'est un brasier particulièrement intense pendant plusieurs minutes, c'est des vapeurs toxiques qui peuvent remplir une maison entière, et ça peut être des explosions qui peuvent être extrêmement dangereuses. Et ça peut se passer n'importe quand, c'est-à-dire même si la batterie est chargée, parce qu'il y a eu des cas, même si le téléphone est en veille, c'est-à-dire on n'est pas en train d'être utilisé de manière énorme, quoi, donc... Dans n'importe quelle situation, le Note 7 est susceptible de prendre feu. Ce qui veut dire que c'est un danger pour vous. Donc si vous avez un Note 7, débarrassez-vous-en au plus vite. Et ça, c'est clair que c'est le cauchemar. Le cauchemar numéro 1 de tout constructeur. C'est que son fer de lance, que le top du top de sa gamme, devienne une grenade dans GTA V. Parce que c'est ça, il y a un mode GTA V qui permet d'utiliser son iPhone Note 7 comme une grenade. C'est devenu un mème. C'est absolument catastrophique, quoi.
Et comment, d'ailleurs, une entreprise comme Samsung, parce qu'on voit ça sous notre regard un peu, mais je pense qu'on n'imagine pas les processus de test qui doivent y avoir. Et puis, c'est pas comme s'ils découvraient les batteries Samsung, la production de batteries. comment est-ce qu'une société peut arriver à une situation comme ça? Alors après, ça fait beaucoup d'appareils qui flambent, mais finalement, quand on réfléchit par rapport à la proportion d'appareils commercialisés, alors évidemment, ça fait beaucoup plus que les autres productions, puisque ça n'arrivait pas dans les autres productions, mais ça fait pas tant d'appareils que ça. Donc, enfin, il y a quelque chose de très incompréhensible sur la façon dont on peut en arriver là. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas mieux de tous se corriger et dire que c'est la batterie des Samsung Galaxy Note 7 qui sont ratées, parce que finalement, le Samsung Galaxy Note 7 n'a pas vraiment de problème avéré.
Si, enfin, si, c'est pas... possible. En fait, on n'en sait rien. En réalité, on ne sait pas. Et visiblement, il est même pas certain.
Qu'est-ce
que
tu supputes?
Eh bien, ce que je suppute déjà, c'est que Samsung lui-même n'est pas... je ne suis pas complètement sûr que Samsung lui-même sache ce qui se passe. Manifestement, puisque sinon, ils n'auraient pas renvoyé des téléphones restent dangereux.
Ou alors, ils sont très cons, mais je ne peux pas penser
que il y a quelque chose qui couille. Ça peut être les batteries, mais ce n'est pas du tout clair. En fait, ça pourrait très bien être un problème de conception du Note 7. J'avais entendu une possibilité comme quoi le Note 7 serait très légèrement trop fin par rapport à la batterie et que ça occasionnerait une pression légèrement trop forte sur la batterie qui augmenterait significativement le risque de court-circuit. Bon, c'est une possibilité parmi d'autres, mais ça se joue à quelques dixièmes de millimètre parfois, tu sais. Mais en tout cas, c'est un problème de design. Donc ça pourrait parfaitement être un problème de design. D'accord. C'est pas forcément la batterie du Note 7, ça pourrait être le Note D'accord. 7 pourrait avoir un petit défaut très léger, mais un petit défaut de design qui augmente la probabilité de court-circuit suffisamment haut pour que ça devienne une catastrophe, quoi.
Parce que, en plus, on a quand même eu, alors encore une fois, c'est à vérifier, hein, mais un cas de Note 7 qui a pris feu alors qu'il était éteint dans un avion, quoi. Le truc était éteint, forcément, il laisse pas les trucs circuler. Alors, bon, peut-être que le mec l'a allumé en douche, j'en sais rien, mais il aurait même, enfin, si c'est vérifié, il aurait même pris feu éteint. Le truc complètement incroyable.
Ouais, ouais, alors qu'au début, Samsung disait qu'il fallait pas le laisser se décharger dès qu'il y avait, tu sais, une sécurité à ce niveau-là. Donc, en fait, apparemment, c'est absolument pas ça, quoi.
Ils avaient même patché les Note 7 pour limiter la charge d'un point de vue logiciel.
Ce qui prouve bien qu'ils ne savaient pas exactement ce qui se passait.
Complètement. C'est hyper triste. Alors, j'ai été interpellé sur Twitter en me disant « Ouais, il y en a marre qu'on se moque de Samsung. » Alors, on m'a, je pense, catalogué définitivement dans la catégorie d'une fanboy Apple qui se gausse et qui se satisfait de cette situation. Bah non, n'imaginez pas ça. C'est juste que ça objectivement, oui, ça me faisait rire. Même si, comme tu le dis, ça me ferait beaucoup moins rire si ça me pétait à la tronche et si ça me faisait flamber. Mais en l'occurrence, c'était vraiment de l'humour et ça aurait été Apple, pour le coup, je pense très objectivement, que j'en rigolerais tout pareil.
Ouais, enfin, ça dépend si c'était ton téléphone. Je sais pas ce que t'as
non,
comme
encore
téléphone.
Encore une fois, si le truc me flambait dans la gueule, je pense que j'en rigolerais pas. Mais si la situation était constatée
par changer, par exemple. Admettons, t'as quoi comme téléphone?
J'ai un iPhone 6S et ça me ferait chier.
Donc,
ça me ferait chier.
T'as une chance sur 1000 qu'un iPhone 6S te pète à la gueule. Donc, évidemment, t'es obligé de le rendre comme un Note 7. Bon, enfin, je dis n'importe quoi sur les chiffres. Mais t'imagines, après, est-ce que tu reprendrais un téléphone Apple? Tu reprendrais un iPhone 7?
Non. Alors, encore une fois, je pense que ça me dissuaderait. Bon, j'en sais rien. Mais non, je pense que ça me dissuaderait bien. Et en l'occurrence, j'aurais acheté un Note 7. Je sais pas si ça me dissuaderait de reprendre un appareil Samsung. Tu vois, très objectivement, j'en sais rien. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que je rirais, certes, d'un rire noir, mais de la situation de la même manière. C'est ça que je veux dire. Mais effectivement, il y a des impacts incroyables. Et en rire, ça ne veut pas dire que je prends ça à la légère, encore une fois. Je trouve que la situation est à quelque chose de dingue, quoi. Enfin, je pense qu'il y a un truc, il n'y a pas de précédent dans l'histoire de l'industrie du smartphone.
Ça, c'est clair que c'est historique. Je pense que c'est historique, ouais, effectivement.
Parce qu'on avait quand même les antennes à gate et les trucs qui pliaient sur les iPhone 6, etc. iPhone 6 qui d'ailleurs font l'objet d'une class action là en ce moment, hein, sur le fait qu'ils plient vraiment et que, en tout cas, l'écran est pris de maladie du touch, etc. Enfin, il y a des choses qui avancent par rapport à ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est sans aucune mesure avec des smartphones qui prennent feu de manière incontrôlable. Contrôler dans des telles proportions, quoi. On va passer à la rubrique et aussi, qui est une rubrique savamment intitulée comme ça, parce qu'on va y mettre plein de petites news. Donc, c'est définitif, vu le temps qu'on a passé à discuter ensemble, on va pas pouvoir relayer les petites news que nous avait préparé Tom. Pour autant, on a des petites infos. Alors, toutes ne nécessitent pas forcément un commentaire. On va essayer d'enchaîner assez rapidement. On a vu passer aujourd'hui déjà la première attaque par drone piégé en Irak. Donc, il n'y a pas trop de communication de la part du gouvernement. Mais des soldats français auraient été au moins grièvement blessés par l'attaque d'un drone qui aurait été armé en Irak. Ça devait arriver et évidemment ça pose des questions sur la sécurité, pas en Irak forcément, mais un peu partout. On avait eu, on se rappelle, cet épisode où il y avait des survols intempestifs de drones au-dessus des centrales nucléaires. Ça te fait flipper, Guillaume ?
Bah oui, mais pas plus qu'avant, parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a déjà eu des survols de drones un petit peu suspects, et on se doute qu'un drone, ça peut très bien être utilisé pour t'envoyer un truc dans la gueule, quoi. C'est malheureusement, ouais, c'est pas une grosse surprise.
À partir du moment où ça transporte une GoPro, ça peut transporter d'autres choses. On avait parlé aussi, Guillaume, à plusieurs reprises, notamment avec Cédric, je me rappelle, de la morale telle qu'elle devait être pensée par rapport à l'intelligence qui accompagne les automobiles qui se conduisent toutes seules. On parlait souvent des Tesla et puis notamment du premier mort qui était survenu il y a pas si longtemps que ça dans le cadre du pilotage ou de l'autopilote d'une Tesla. Dans le cadre du mondial de l'auto, il y a Mercedes-Benz qui a pris position par rapport à cette interprétation de dire dans quel cas est-ce que la voiture doit éviter des passants, comment est-ce qu'on calcule si les voitures sont amenées à faire un choix entre telle situation avec telle victime et telle situation avec telle victime, laquelle privilégie-t-elle. Et ils ont créé j'allais dire l'événement dans ce domaine-là, Mercedes-Benz, parce qu'ils ont choisi tout bonnement de systématiquement protéger le client Mercedes-Benz, à savoir le conducteur ou la personne qui est dans la voiture telle qu'elle est autopilotée. Selon eux, voilà, c'est en gros leur position. Ils disent chez nous, nos voitures, si vous achetez un véhicule Mercedes-Benz, c'est forcément vous qui serez sauvé plutôt qu'une victime possible de l'extérieur s'il y a un choix à faire. C'est chaud quand même, Guillaume. Puis en même temps, on peut se dire que de la part d'un constructeur, est-ce qu'on a vraiment envie d'acheter une voiture qui est susceptible de nous faire mourir dans un cas où il y a un choix de victime à faire?
Enfin, je sais pas. Oui, c'est une réponse à ta question. Hein. C'est tout simplement ça. Est-ce que tu vas acheter une voiture susceptible de te tuer pour sauver un coup?
Je sais pas. Les gens achètent bien des Tesla, tu vois.
Non, mais tu vois, c'est parce que là, d'ailleurs, bon, vous l'aviez certainement mentionné, mais c'est vrai qu'il y a déjà eu des sondages. Et les gens, évidemment, en théorie, hors tout, ils disent « oui, il faut sauver le maximum de personnes », sauf que, évidemment, s'ils sont dans la voiture, ils préfèrent être sauvés eux. C'est très logique, c'est très humain, et c'est évident que les constructeurs vont aller dans ce sens, ils ne sont pas forcés à aller dans un autre sens, par une force supérieure, c'est-à-dire une sorte de code de la route pour robots, quoi.
Mais ça va venir, on est d'accord que et, la législation
probablement,
va se tourner là-dedans.
Par contre, il faudra justement choisir. Il faudra que le code de la route pour robot soit voilà. Enfin, je ne sais pas exactement d'ailleurs ce qu'ils vont choisir, s'ils vont en faire un, mais bon, ça va être intéressant, c'est sûr.
Ça pose des vrais problèmes, on en parlera ensemble. Tu nous fais rêver du côté des jeux vidéo, Guillaume ?
Du côté des jeux vidéo ? Ah ouais, oui, la Nintendo NX ! Oui, la Nintendo NX
Oui, moi, depuis que tu m'en parles, je rêve, je bave, j'attends ça avec impatience.
La Nintendo NX, rien. Ah, voilà, désolé.
L'info, c'est qu'il n'y a pas d'info ?
Ouais, le faux, c'est qu'il n'y a pas d'infos et que c'est absolument incroyable, quoi. Je veux dire, ça doit sortir en mars et il y a toujours zéro info. Il m'énerve, Nintendo. Il m'énerve.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du lancement d'un smartphone, quoi. Il s'agit d'une plateforme avec son écosystème, ses jeux, etc. Alors, la crainte qu'on peut voir, qu'on peut craindre, la crainte qu'on peut avoir dans le cadre de cette non-annonce de NX, est-ce que c'est pas que Nintendo resterait enfermé dans un écosystème totalement Nintendo-ifié et ne s'ouvre pas, comme on pourrait le souhaiter, à plus que ça, à des développeurs, non ? S'ils annoncent rien et qu'il y a quelque chose qui devrait arriver dans pas longtemps ?
Non, je sais pas, il m'énerve.
Bon, on va les laisser t'énerver. Les objets passent à l'attaque, il faut avoir peur, Guillaume, ou pas ?
Bien sûr. Évidemment, surtout si vous êtes fournisseur d'accès, OVH en a fait les frais d'ailleurs, puisqu'ils ont subi leur plus grosse attaque de DOS, donc Denial of Service. Donc Denial of Service, ça veut dire juste qu'il y a des botnets, des réseaux d'ordinateurs zombies qui envoient des requêtes à n'en plus finir sur les serveurs, à tel point qu'ils les surchargent et que ceux-ci deviennent complètement indisponibles. Alors là, ce qui est le plus rigolo quand même, c'est que cette attaque au botnet a été perpétrée par 145 607 caméras. Et c'est quand même plus de 1 terabit par seconde de requêtes. Donc c'est absolument énorme, 1 terabit par seconde, c'est du jamais vu. Et donc il y avait des caméras et des enregistreurs vidéo, donc des magnétoscopes, des DVR, qui ont été piratés et ont été mis en réseau. pour envoyer des requêtes à OVH. Bon, c'est la première attaque de ce type, de cette ampleur, mais c'est certainement pas la dernière. Hein. À force de connecter tout et n'importe quoi à l'Internet, c'est évident qu'il va se passer ce genre de truc. Donc, bah, voilà, on relaiera ça, c'est bien, Marie, c'est bien rigolo.
Faut bien que ça serve, toutes ces adresses IP.
Bien sûr, à quand une attaque massive de brosses à dents connectées?
C'est clair, la flip, ou de fourchette connectée, effectivement. On avait parlé tout à l'heure je l'avais mentionné, donc je vais pas le refaire. Vous irez voir le lien vers l'article dans les notes de l'émission, mais le lave-linge de chez General Electric qui commande les tablettes tout seul sur Amazon, donc qui peut vous commander votre lessive automatiquement. Bon, on imagine hein, que ça va généraliser, puis ça fera autant d'occasions d'avoir des appareils pour rediriger des attaques par déni de service sur des sites. Donc c'est parfait.
Tu on est dans la continuité. On aura même plus besoin du bouton Amazon là, tu sais, le bouton de Cheetos où tu appuies quand tu veux des Cheetos.
A priori, j'ai pas eu trop cru à cette idée en tant que bouton, mais le concept, ouais, complètement.
Le concept.
Mais oui, j'ai hâte.
Le moindre effort.
Mais moi, j'ai hâte que ma maison sache que j'ai plus besoin de commander des bouteilles d'eau, quoi, c'est clair. David contre Goliath, tel que je l'avais noté encore une fois dans les notes de l'émission, où en fait il y a une entreprise hein, qui lance une procédure contre Apple. On leur souhaite bien du courage, mais qui malgré tout est très fondée. Ils mettent en avant les limites de WebKit sur iOS, donc c'est la technologie qui fait tourner le navigateur Safari sur iOS et qui est la seule technologie qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que vous pouvez créer des applications comme Chrome, Opera, etc. sur iOS, mais vous êtes obligé d'utiliser cette version de WebKit, et d'ailleurs WebKit tout court, et du coup ça vous limite vachement pour pas mal d'usages, et il y a plein de fonctionnalités qui sont prises en charge en standard aujourd'hui par tous les autres navigateurs qui ne le sont pas par WebKit, et ça pose quand même un certain nombre de problèmes cette fermeture, notamment pour les développeurs. Donc là encore, vous pourrez aller consulter ce petit article. Et dans la lignée des robots mignons, est-ce que tu avais vu le tigrou robot que prépare Disney?
Oui, alors je crois qu'il y a des limites, quoi.
Pourquoi ?
C'est ridicule, hein.
Il est mignon ! Il saute sur lui-même, il a hâte de te rencontrer, Guillaume.
Ah ouais, s'il peut sauter un petit peu plus loin, là, c'est... Voilà,
il veut te dire compagnie. Bah, par contre, c'est flippant hein, d'un point de vue techno, non ?
Oui, de point de vue techno, c'est vrai que c'est marrant, puisque c'est quand même un truc qui est en perpétuel mouvement et qui réussit quand même à contrôler son allure, son chemin. Voilà, c'est vrai que son chemin, tout ça, il arrive à sautiller comme ça, comme un débile. Ouais, c'est énormément d'ingénierie pour un résultat vraiment ridicule.
Youhouhou ! Non, c'est pas comme ça qu'il fait Tigrou. Si, non, je sais plus, ça c'est dingo. Ouais, je sais plus. Allez, tu vas nous quitter sur cette rubrique, Guillaume, avec une note positive et d'espoir pour la planète.
Et oui, les Allemands veulent bannir les moteurs thermiques à l'horizon 2030. Donc plus de voitures à essence ou diesel ou même voilà, tout ça à l'horizon 2030 c'est fini, il faudra avoir des voitures électriques ou des voitures à hydrogène ou ce que vous voulez, ou des vélos, c'est encore mieux, mais c'est fini, voilà, capote la voiture.
Et en fait moi je me disais en voyant ça que c'était à la fois hyper ambitieux et à la fois tellement évident,
parce que je veux dire, si les gouvernements ne tapent pas du poing sur la table et ne prennent pas des décisions un petit peu ambitieuses pour l'écologie, qui va le faire? C'est pas les constructeurs hein. Donc, si, peut-être Elon Musk, bien sûr, notre héros, mais franchement, heureusement, oui, comme tu dis, je trouve que ça vient bien, parce que je pense que oui, les technologies aujourd'hui sont matures pour imaginer un futur avec moins de particules fines, quoi, ce sera pas mal.
Vivement demain. On passe à une petite rubrique promo. Alors, j'espère que ça va se vérifier parce que du coup, j'ai pas vu le plan de la prochaine chronique des composants, Guillaume. Mais j'espérais que tu puisses nous mettre au goût du jour des prochains Mac qui tourneront vraisemblablement avec des processeurs ARM. On a vu passer les infos. On en reparlera dans la chronique des composants. Donc, oui, on vous rappelle.
Peut-être. Ou pas. Je sais pas. Pas sûr.
Ou pas. Pour rappel, en tout cas, vous avez deux types d'émissions dans le flux en podcast de Tech Café. Il y a Tech Café, donc c'est l'émission que vous écoutez. Et la chronique des composants, donc c'est la même équipe, hein, c'est les deux Guillaume qui vous parlent pour vous parler de ce qui fait tourner vos appareils. Et le prochain épisode sera une chronique des composants. On va en profiter aussi pour souligner les commentaires iTunes, parce que je sais qu'il y a directuctible gaulois qui sont prêts à prendre leur bâton de pèlerin et aller sur l'univers fabuleux d'iTunes pour aller déposer des commentaires pour Tech Café, comme je le demande assez régulièrement. Et merci beaucoup à vous, parce que ça nous permet toujours d'être visibles et puis surtout d'avoir votre retour. Alors, j'en citais deux. Il y a l'Holom 22, un podcast tech qui parle vraiment de tech, parfaitement conduit par un Guillaume sympa qui se met à notre portée avec une expertise passionnante d'un deuxième Guillaume. Il est sympa aussi. Sans doute un des meilleurs podcasts tech, si ce n'est le meilleur. Bravo également à tous les autres invités. Longue vie à Tech Café et à la chronique des composants, unique en son genre. Et puis Funky Tech, qui a déposé un commentaire sur le store iTunes suisse. Oui, parce que je suis tous les commentaires iTunes, y compris ceux des autres pays. Alors pour les langues que j'arrive à peu près à maîtriser, mais j'imagine pas qu'on soit écouté dans d'autres langues que le français. Surprenez-moi. Funky Tech qui a donc écrit une super ambiance, les animateurs sont de qualité et détendus, de la bonne humeur et de la tech 100%. Je suis un tipeur heureux et nous sommes des podcasteurs ravis de voir ce commentaire. Guillaume, on va passer au bonus et c'est toi qui vas inaugurer cette session de bonus. Qu'est-ce que tu as dans ta valise cette fois-ci?
Écoute, étant donné que j'ai pas encore pu commencer Westworld, je vais pas en parler, mais du coup j'ai trouvé un truc assez rigolo. Alors, rigolo et peut-être aussi consternant, est-ce que t'as vu ça, le volume, l'écran holographique, le vrai? Tu sais, le truc qu'on voyait dans les films de SF qui aurait fait parfaitement l'affaire dans Retour vers le futur 2, c'est une espèce de cube de verre dans lequel une image moche, mais en trois dimensions, s'affiche de manière ultra palichonne et avec laquelle vous pouvez mollement interagir avec votre doigt en prenant un air pénétré comme le mec de la vidéo. Là, je sais pas si t'as vu, il est magnifique. Voilà, donc cette petite bricole qui ne sert strictement à rien, qui a l'air de sortir tout droit d'un film de
1988, intégrable part, moche,
coûte quand même $1,000 pour 2 millions de pixels en 3D.
Ah, ils s'imaginent bien qu'ils vont pas en vendre des pelletés entières, donc ils
couleurs,
peuvent pas
délaver, voilà. Alors, je rappelle, pour ceux que ça intéresse, que vous pouvez faire à peu près la même chose avec votre téléphone mobile et 4 feuilles de plexiglas scotchées. Hein. Vous avez des applis pour ça. Ça vous coûtera beaucoup moins cher et franchement, le résultat est à peu près le même.
C'est vrai que c'est complètement atroce.
Ah, parce qu'on dit on vit dans le futur, la science-fiction, c'est demain, c'est même aujourd'hui, tout ça. C'est vrai, mais bon, c'est pas forcément la peine de faire aujourd'hui ce qu'on voyait dans les films de science-fiction il y a 30 ans. Ça m'a quand même vachement étonné. Je sais pas ce que les mecs espèrent avec ce truc-là, mais... Bon.
J'aime l'extrait de l'article. Malgré la résolution de plus de 2 millions de pixels en 3D, les images projetées semblaient quand même, malgré tout, assez floues. Je trouve ça génial. C'est vrai que le mec, il est à voir dans l'article. Le lien est dans les notes de l'émission. Moi, j'avais deux petits bonus. Un qui, finalement, est assez éloigné, quoique, de Tech Café, mais c'est le financement participatif d'un jeu de rôle traditionnel sur table, qui est Vampire, l'âge des ténèbres, une série que vraiment j'adore, qui a été proposée en crowdfunding sur Ulule. Ils ont atteint, là, les 50 000 euros de financement. Donc, c'est un vrai succès. Je voulais juste aussi faire un petit clin d'œil à ce type de dispositif en ligne qui permet aujourd'hui de financer des jeux de rôle, des trucs qui prenaient plus forcément de place dans les boutiques d'un point de vue financier, et c'était plus forcément évidemment très très rentable, et ce modèle de production fait que ça permet de faire revivre et de recréer toute une nouvelle dynamique sur les jeux de ce type là, donc un petit coup de cœur par rapport à ce que permet d'apporter la tech là-dessus, et puis un petit lien vers un mec qui s'est amusé à recréer une carte de la galaxie dans laquelle on peut se balader. Alors c'était très prometteur quand j'ai vu ça, et puis ensuite j'ai cliqué sur le lien et j'ai vu que c'était des nuages de pixels blancs, donc ce qui n'est pas forcément captivant, et pour autant quand on se balade on retrouve un petit peu les vues qu'on peut avoir de l'espace quand on regarde dans le ciel la grande traînée qui correspond à la galaxie et la voie lactée. Il s'est amusé à cartographier ça, et c'est juste aussi un petit clin d'œil sur la techno qu'il a utilisée, parce que ça le gonflait un peu d'acheter un serveur avec, si jamais il y avait du succès, beaucoup de gestion de cash, etc. Il voulait pas rentrer là-dedans. Et ça tourne en peer-to-peer. Donc, si vous lancez l'expérience, si vous cliquez sur le lien, si vous allez visiter la galaxie en 3D, vous allez, sachez-le, la visiter en peer-to-peer, c'est-à-dire que vous allez transmettre vous-même des infos à d'autres internautes, et il n'y a pas véritablement d'hébergement principal de tout ça à un endroit. Enfin, si, il y a des données qui sont centralisées à un endroit, mais voilà, les informations circulent en peer-to-peer. J'ai trouvé ça assez rigolo. Tu l'avais vu, Guillaume ? Il a coupé son micro, peut-être ? Non ?
Non, par contre, non, pas du tout, pas du tout. C'est, en fait, il y a eu un blanc pour moi aussi.
Ah bon, d'accord, pardon.
Désolé, oui, il y a eu un gros blanc. Et du coup, j'ai pas trop entendu ce que t'as dit, mais bon, je suppose que, voilà,
T'as testé la galaxie en 3D, la carte, non ?
Non, pas du tout, j'avais pas vu du tout ça. J'avais pas vu tout, c'est mal, hein, effectivement, c'est bien, c'est cool.
Je te laisserai tester. On va vous saluer, vous qui nous écoutez, dans cet épisode de Tech Café, oula, de Tech Café, non pas Cake Café. C'était pour ma part Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur Twitter, Guillaume Vendée, sur mon site guillaumevendée.me ou partout où les moteurs de recherche vous mèneront. Quant à toi Guillaume, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part si on veut t'interpeller ? Est-ce que tu es présent sur un réseau social ou sur une réalité virtuelle en particulier ?
Mais je serai dans la galaxie, il y a un voyage.
Ah, tu seras parmi les pixels blancs. Merci beaucoup, Guillaume. Merci de ta participation. Merci beaucoup de votre fidélité. À tout bientôt.
Merci,
ciao.
Au revoir.